Amen. On reste dans la période de Noël et on va lire deux textes qui nous parlent de Noël dans la Bible. Un qui a été écrit par le prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe qui est un spécialiste des prophéties concernant le Nouveau Testament et notamment concernant Jésus. Et dans le chapitre 16, verset 14, voici ce qu'il va le dire près de sept siècles avant la venue de Jésus sur terre. Il dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ok ? C'est une période où ça n'allait pas bien au niveau du peuple d'Israël. Et même le prophète dit que le peuple, il a fatigué Dieu, en fait. Vous vous rendez compte qu'on peut fatiguer Dieu ? Il a fatigué Dieu. Et juste après avoir dit ça, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Moi, c'est ce qui m'émerveille avec Dieu. Moi, quand quelqu'un me fatigue, j'ai pas envie de lui faire du bien. Mais le Seigneur, le peuple fatigue et il prophétise et il annonce qu'il va faire venir un sauveur pour son peuple. Amen. Quel grand Dieu nous avons. Quel Dieu bon. Alléluia. Et puis dans Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23, l'évangéliste Matthieu nous raconte le récit de la nativité et il parle de ce moment où Marie apprend qu'elle va être enceinte, qu'elle va avoir un fils par l'ange Gabriel. Et puis il met ce commentaire: « Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et là, on dit merci à Matthieu parce qu'il nous donne la signification du nom, Emmanuel. Et ça signifie « Dieu avec nous ». Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le titre du message. Il est tout simple. Et dans cette affirmation, cette signification, il y a trois mots. Il y a un nom et deux mots. Dieu avec nous. Premièrement, Dieu. Il s'agit de Dieu dans cette phrase. Il est parlé de Jésus, mais il est parlé de Dieu en même temps. Donc pour ceux qui ont du mal avec la Trinité, ben pensez à ce nom qui a été donné à Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce n'est pas Emmanuel, Jésus est avec nous. C'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc Jésus, c'est Dieu avec nous. Donc c'est bien la même personne. Hein. On est d'accord ? Ok, je ferme la parenthèse sur la Trinité. Il s'agit bien de Dieu et il s'agit très nettement d'une révolution. Dieu est avec nous, c'est révolutionnaire de dire cela. Ce qu'il y avait jusqu'à maintenant dans le peuple d'Israël, c'est la peur de Dieu. L'impossibilité de le voir et de vivre. Il n'était même pas autorisé de prononcer son nom. Donc je ne sais pas si vous réalisez le contexte. Et là, parler de Dieu avec nous, cette proximité entre Dieu et l'homme, c'est révolutionnaire. On pense à cette montagne où il y avait la gloire de Dieu et où le peuple avait pour consigne, surtout, il ne pouvait même pas toucher la montagne. En envoyant Jésus, Dieu change la relation. L'apôtre Jean dit ceci, et j'aurais pu lire tout le début du chapitre 1, mais ça aurait été un peu long, mais juste un extrait, chapitre 1 de l'évangile de Jean, hein, qui nous parle de « Au commencement était la parole », il nous parle de Jésus, en fait, qui est là dès le commencement, et Jésus n'apparaît pas le jour de Noël. Ah tiens, Jésus ! Non, Jésus était là bien avant Noël. Il était là à la création de la terre. Il était là même avant. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On voit bien qu'il y a un changement de relation. On passe de la loi à la grâce et la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu jusque-là. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Jésus vient nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir Dieu, ce qui n'était pas possible. Quelle grâce. Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'approche de nous. Jésus, c'est Dieu qui veut être près de nous, proche de nous. C'est incroyable de penser que deux êtres qui s'opposent à ce point, je parle en tous les cas pour moi, si je prends Dieu, si je prends moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir plus opposé. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est qu'on se réunisse. Et pour ça, il a fallu que Jésus-Christ vienne, qu'il meure, qu'il me lave et qu'il me purifie de mes péchés. Sinon, cette unité, elle est impossible. Amen. Le deuxième point, c'est le mot « avec ». Avec. Qu'est-ce que c'est le contraire d'avec, Iliana ? Le contraire d'avec, c'est quoi ? Le contraire d'être avec quelqu'un. Si t'es pas avec quelqu'un, t'es... Ah oui, ça peut être un contraire, oui. Moi, j'en voudrais un autre. Si tu fais du sport, tu es avec tes coéquipiers et tu es dans les autres, tes adversaires, tu es contre eux, voilà, c'est ça. Le contraire d'avec, c'est contre. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez le réaliser parce que on peut avoir parfois l'impression que Dieu est contre nous. J'ai tellement entendu de fois, Dieu m'a puni, Dieu s'est retiré, Dieu m'a abandonné, parce que l'épreuve est là, parce qu'il y a des difficultés, et on pense que Dieu est contre nous. Et à chaque fois qu'on pense que Dieu est contre nous, eh bien disons cette phrase, « Satan, va-t'en, je ne veux plus t'écouter ». Parce que cette phrase ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas du Saint-Esprit. Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous. Et c'est très important. En fait, quelque part, la religion chrétienne, au cours de l'histoire, a véhiculé un peu ce message que Dieu pouvait être contre nous. Si jamais tu fais quelque chose de mal, ben Dieu est contre toi. Si... Mais non. Quoi qu'on fasse, Dieu est avec nous. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il approuve, mais il veut toujours être là. Être avec nous, j'ai vu que ça pouvait, j'aurais pu ajouter plusieurs autres choses, mais ça pouvait avoir quatre conséquences. Parce que Dieu il représente un être à multifacettes, on le sait. Et le fait qu'il nous accompagne nous fait bénéficier de tout ce qu'il y a en Dieu. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est sa puissance. Sa puissance. La puissance de Dieu est avec nous. D'accord ? La puissance de Dieu est avec nous. On a quelqu'un de puissant à nos côtés. Ça veut dire, je me sens protégé, je n'ai pas peur. Si je sais que quelqu'un de puissant est avec moi, est-ce que j'ai peur ? Non. Je me sens en sécurité. Je regardais encore un reportage, vous avez vu que ce qui s'est passé dans les transports en commun à Paris, c'est trois femmes qui se sont fait agresser. Bon, je passe parce qu'elle est petite. Et on interviewe les gens, on se sent plus en sécurité, on se sent mal, etc. Oui, je le comprends. Mais nous nous sentons en sécurité. Parce que celui qui est puissant est avec nous. Il est puissant aussi pour nous restaurer. Puissant pour nous guérir. Amen. Vous le croyez ? Il est avec nous dans sa puissance de miracle. Et en fait, cette puissance aussi, elle nous ouvre des possibilités. Alors que nous sommes dans ce corps et dans cet esprit limité, le fait que Dieu soit avec nous ouvre des possibilités et fait tomber toutes les limites. Amen. Les limites tombent. Dieu de l'impossible, on le chante. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu, c'est un Dieu de réconfort. C'est pas le père Fouettard duquel on nous parle trop souvent. Si tu es méchant, Dieu, il va pas être content, il va te punir. Ça, c'est faux. Dieu, c'est celui qui nous réconforte. C'est celui qui nous tend la main. Si jamais je chute, eh bien, il va me tendre la main. Au travers de lui, c'est son réconfort. Quand j'ai besoin de parler, de me confier, ben, y a des gens qui disent « Moi, je suis seul, j'ai personne à qui parler. » Ben, nous, on a une chance extraordinaire. Et en plus, nous, il n'y a pas besoin de dire « Tiens, j'aimerais me confier à quelqu'un, je vais prendre rendez-vous, je vais aller voir. » Non, à l'instant même, si tu as besoin de te confier, tu peux parler avec Dieu. Il est là tout le temps. Pas de rupture de réseau. Forfait illimité, gratuit. Amen. Gloire à Dieu. Il est le consolateur. Il est celui qui a des paroles d'encouragement, des promesses. C'est tellement bon de l'avoir avec nous. Amen. On parle de son amour aussi. Troisième point. Au travers de lui, c'est son amour qui est avec nous. Un amour inconditionnel. D'accord ? Vous savez ce que ça veut dire, inconditionnel ? Il ne pose aucune condition. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser qu'il est avec nous que si on est bien. Si on est gentil, si on obéit à sa voix, il est là. Si on n'obéit pas à sa voix, il s'en va. Non, ça c'est faux. Alors, il peut retirer sa bénédiction, il peut retirer son approbation, mais il reste là. Et il nous aime. Et il va toujours chercher à nous ramener dans le bon chemin. Avec délicatesse, avec tendresse. Vous savez, souvent, les gens utilisent les textes des proverbes avec la verge, là. Tape ton fils avec ta verge. Bon, peut-être qu'à l'époque, vous savez, les mœurs ont évolué. Hein. À l'époque, moi, il y avait le martinet chez moi. Hein. Donc, c'est des choses qui sont inconcevables aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, l'image du bâton, souvent, il est parlé du bâton. Et c'était la houlette du berger. Vous savez, le bâton avec un petit arrondi. Et vous savez à quoi ça servait ? Ça servait, ils avaient le coup, les bergers, quand une bête allait dans la mauvaise direction, ils mettaient un petit coup sur la patte, comme ça, pour le faire changer de direction. Et en fait, c'est ça, la pédagogie de Dieu, c'est de nous ramener par un petit geste dans la bonne voie. Amen. Le berger, on ne connaît pas de berger qui prenait son bâton et qui tapait comme un sourd sur ses brebis. Il perdait ses moyens de subsistance en faisant ça. Il faut être fou pour faire ça. Et Dieu frappe pas sur ses brebis. Il utilise le bâton pour les remettre dans la bonne direction. Amen. Avec lui aussi, nous avons cette chance d'avoir la sagesse, l'intelligence. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si... Peut-être tout le monde n'a pas fait des études supérieures ici. Et peut-être même il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait d'études supérieures. Il se dit, bon, moi je suis pas trop intelligent, je suis nul par rapport à d'autres. Il regarde d'autres, oh, et tout ça. Ben, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Si Dieu est avec toi, tu es intelligent. Plus que quelqu'un qui a fait des études supérieures. Alors, il ne faut pas s'en vanter, parce que ce n'est pas nous. Mais c'est la présence de Dieu en nous qui nous rend intelligents. Intelligent, ça ne veut pas dire... tout savoir sur tout. Intelligence, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Prendre toujours la bonne décision. C'est ça, être intelligent. Et moi, sans Dieu, je ne suis pas intelligent. J'ai fait des études supérieures, voilà, super. Je pourrais vous montrer mes diplômes. Waouh. Mais mes diplômes ne me rendent pas intelligent pour faire la volonté de Dieu. Et la présence de Dieu en moi, oui, elle me rend intelligent. Amen. Sa parole, que nous devons méditer, parce que Dieu avec nous, ça doit être concret. Hein. Si je ne lis pas ma Bible, ok, je vais dire Dieu est avec moi. Oui, il est avec moi, mais quelle est l'incidence ? Oui, il me protège, tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un changement ? Est-ce qu'il y a une direction qui est donnée à ma vie ? Non. Mais si je lis sa parole, si je lui demande de me remplir de son Esprit Saint, alors il va se passer des choses extraordinaires. Et en tous les cas, cet accompagnement du Seigneur fait de nous des privilégiés. Vraiment des privilégiés. Je ne sais pas, on ne s'en rend pas assez compte. Surtout nous qui avons toujours vécu dans les voies du Seigneur, on ne s'en rend pas compte. Cette chance qu'on a de connaître les voies de Dieu, de connaître ce qui est bien, ce qui est mal, de pouvoir faire les bons choix. Amen. Puis le dernier mot, le pronom qu'il y a, c'est « nous ». Nous, vous voyez, j'ai mis une foule là, « nous ». Nous, c'est qui ? Ben, c'est tous les hommes. Tous les hommes, au sens large, hein, hommes et femmes. Je vous rappelle ce texte que vous connaissez, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. C'est pas, il a aimé les Juifs, il a aimé les chrétiens, il a aimé ceux qui sont bien, il a aimé le monde. Amen. Dieu a aimé le monde. Il envoie Jésus et il veut être avec nous et avec nous tous. Il n'exclut personne. Personne n'est exclu. Jésus ne peut pas être en train de mourir sur la croix et avoir une liste de noms. Je meurs pour eux. Et une autre liste de noms, ben eux, non, je ne meurs pas pour eux. Non ? Pourtant, il y a des théologies qui vous le disent. Hein. Il y a des gens qui sont élus, il y en a d'autres qui ne peuvent pas être sauvés. Ben moi, je dis que non. Dieu a aimé le monde et donne à tout la possibilité à tous ceux qui croient en lui d'être sauvés. Amen. C'est une révolution. On a parlé de révolution tout à l'heure, mais on revient dans la révolution, là. Il y a eu un mouvement à une époque qui s'appelait Jesus Revolution aux États-Unis. Et oui, alors j'aime pas trop le terme parce qu'aujourd'hui, révolution, ça veut dire autre chose. Mais oui, Jésus, il apporte une vraie révolution. D'abord, le salut pour tout le monde, alors qu'à l'époque, c'était pour les Juifs seulement. Le salut pour tout le monde, ouvert à tous. Et puis, le salut, quand on regarde bien l'histoire de l'Ancien Testament, c'était souvent au niveau collectif, c'est le peuple, le peuple, le peuple. Je sauverai mon peuple, je prendrai soin de mon peuple, j'enverrai mon peuple. Et là, maintenant, le salut, il devient individuel. Individuel. Jésus va montrer le chemin. Lorsqu'il se déplace en Judée, en Galilée, il rencontre des personnes. Moi, je pense à Zachée. Zachée au milieu. À chaque fois, ces personnes sont au milieu de la foule. Et lui, il s'avance et il dit Zachée. Pof, le prénom. Ouh, clac. Oh, ça calme. Hein. C'est pas pareil. Hein. Quand, je fais toujours référence à ça quand j'étais conseiller principal d'éducation. Quand vous arrivez, quand vous avez une cour avec 300 élèves, et qu'il y en a un qui fait le zouave, là, vous êtes au milieu, et vous dites « Hé, toi, là !» Ça n'a pas le même impact si tu dis « Benjamin !» Je fais allusion à personne. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je fais allusion à ceux qui ont été terribles au collège. Non, mais je vous assure, vous voyez la tête de l'élève, c'est pas la même tête quand vous dites « Hé, toi, là !» ou quand vous dites son prénom. Et moi, je me faisais vraiment une discipline de rapidement connaître les noms de tous les enfants. Parce que c'est tellement important. C'est pas facile, hein, quand il y en a 300. Ben, la première année, c'est très dur. Et puis les autres années, vous avez juste les sixièmes à apprendre, donc ça va. Donc je prenais mes trombinoscopes et je bossais. Et après, je les appelais, ils me regardaient comme ça, à chaque fois, ils étaient là. Comment c'est mon prénom, lui ? Mais après, ce n'est pas le même rapport que vous installez avec la personne, quand vous l'appelez par son prénom plutôt que dire « toi là hein ». Et en fait, moi, ça me fait toujours penser à cette attitude qu'a Jésus envers nous, envers Zachée. Je pense à la femme à la perte de sang. Bon, il ne l'a pas nommée par son nom, mais elle était pareille au milieu de la foule. Les disciples, « mais alors, comment tu veux savoir que quelqu'un t'a touché ? Qu'est-ce que tu racontes là avec le monde qu'il y a ?» Non, le Seigneur, il savait. Il savait qu'il y avait une personne qui avait besoin de lui. Amen. Bartimée, l'aveugle, on veut faire taire aussi. Jésus va se diriger vers lui. Le lépreux. Vous en êtes compte, le lépreux ? Quand le lépreux s'est approché de Jésus, on n'y pense pas, mais tout le monde était parti en courant. Quand il y avait un lépreux, tout le monde partait. Normalement, ils avaient une clochette. Hein. Ils faisaient cling-cling-cling avec la clochette pour que les gens soient avertis qu'ils arrivent et qu'ils puissent s'écarter. Mais là, imaginez-vous la scène du lépreux. Il n'y a plus que Jésus et le lépreux. Tous les autres sont... Ils sont à distance. Mais Jésus, lui, il est resté. Il est resté parce qu'il voulait sauver, rendre pur cet homme. Amen. Que son nom soit béni. Moi c'est ça qui me touche. Et je sais que c'est une chose que j'avais vue dans un reportage une fois où le journaliste posait la question, c'est quoi qui fait que les évangéliques, ils ont du succès ? Et en fait, le pasteur avait répondu, parce que nous, on parle d'un salut individuel, d'une relation personnelle. Et en fait, c'est vrai, c'est ça qu'on a besoin. De considérer que le regard de Dieu, il est sur chacun de nous, mais dire « nous », c'est bien. Mais il est sur toi. Le regard de Dieu, il est sur toi, individuellement. Amen. Il est sur toi individuellement. C'est pour toi qu'il est venu. C'est vers toi qu'il est venu. Emmanuel, Dieu avec toi. Amen. On va prier. On va remercier le Seigneur pour ces moments. Seigneur, nous te bénissons, oui, pour ces temps de Noël où tu nous rappelles, où est mis à notre souvenir ta venue sur terre. Et moi, je suis touché par ce nom qui t'a été donné, Emmanuel. Cette promesse qui est liée à ce nom. Cette promesse que tu vas répéter alors que tu vas quitter les disciples, tu montes au ciel et avant de monter, tu leur dis « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse merveilleuse, Seigneur. Et nous voulons te bénir, te rendre grâce de ce que tous ici, nous expérimentons que tu es avec nous dans ta puissance, dans le réconfort que tu peux apporter, dans l'amour inconditionnel dont tu fais preuve envers nous, la sagesse que tu nous donnes, l'intelligence que tu nous communiques. Seigneur, comment ne pas être reconnaissant ? Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Quelle grâce, oui, quelle grâce. Tu es venu vers nous et nous voulons être éternellement reconnaissants pour cela, Seigneur. Je te prie, Seigneur, si parmi nous, quelqu'un n'est pas encore certain que tu es avec elle, avec lui. Alors Seigneur, donne-lui cette conviction que tu es l'Emmanuel, Dieu avec toi. Merci Seigneur, merci pour ces temps, merci de bénir tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous, qui sont en vacances ou qui ont été empêchés. Nous prions pour toute cette communauté de l'île Jourdain afin que tu puisses nous renouveler, nous fortifier et que nous soyons vraiment des témoins comme un phare dans cette ville.